Bonsoir à tous. 4 morts cet après-midi au siège de la police parisienne. Un informaticien s'en prend au couteau à ses collègues de la préfecture avant d'être lui-même abattu. Un fonctionnaire de 45 ans sans problème de comportement, d'après Christophe Castaner. Vous entendrez le ministre de l'Intérieur venu sur place avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et un témoin de l'agression. Nous sommes sur l'île de la Cité dès le début du journal. Épuisé, surchargé de travail et de demandes contradictoires, plusieurs milliers d'enseignants dans la rue, partout en France, en mémoire de Christine Renon, cette directrice qui s'est suicidée dans son école à Pantin. Au sommaire également ce soir, des jeunes mamans et femmes enceintes qui portent plainte après l'incendie de Rouen, le grand débat retraite d'Emmanuel Macron à Rodez, le parcours du combattant de Sylvie Goulard à Bruxelles pour son poste de commissaire européenne, l'abandon du tenant du titre du décathlon Kevin Mayer aux Mondiaux de Doha. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, ce soir, on parle QI, cette folie qui s'empare des parents parfois, qui tiennent absolument à faire tester leurs enfants. Peut-être ont-ils raison d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça dit, un QI? Ça sert à quoi exactement? On mettra des carrés dans des cubes et on fera des suites de chiffres ce soir au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est l'un des lieux emblématiques de la police parisienne avec la PJ et le fameux 36, désormais au Batignolles. La préfecture de police de Paris a donc été le théâtre d'une agression au couteau en début d'après-midi. Un employé administratif a poignardé plusieurs collègues à l'intérieur des locaux, puis dans la cour des bâtiments de l'île de la Cité. Il y a donc 4 morts, 3 fonctionnaires et un agent administratif. L'agresseur a été abattu. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Avant de voir avec vous ce qu'on sait de cet homme, d'abord, le déroulé des faits, Ariane.
Tout s'est passé très rapidement selon des témoins. Il est autour de midi et demi quand cet employé de la préfecture sort un couteau et commence à viser ses collègues qui se trouvent dans les bureaux au même étage que lui. Puis il continue son parcours dans l'enceinte de la préfecture, toujours descend dans la cour. C'est là qu'il est tué par balle. Youssouf travaille dans le bâtiment, il a été témoin de la scène.
Moi j'étais dans mon bureau juste au moment où j'ai entendu des cris de femmes. Et en ce moment avec ma responsable hiérarchique on s'est dirigé vers la fenêtre. C'est au même moment qu'on a vu l'assaillant avec le couteau et entendre le policier qui lui disait « Jetez votre couteau, jetez votre couteau ». Il a eu 2 fois l'assommation. Donc en ce moment, il s'est précipité vers le policier, il s'est dirigé vers le policier. C'est en ce moment que le policier a tiré.
L'assaillant a donc fait 4 victimes, 3 hommes et une femme. Un 5e employé de la préfecture, policier, est blessé. Il a été opéré cet après-midi.
Alors que sait-on, Ariane, de cet homme qui était donc un informaticien?
Il s'agit d'un homme de 45 ans, il était agent administratif de la préfecture de police, donc pas policier, il ne portait pas d'armes à feu. Il y travaillait depuis 2003 et était à la direction du renseignement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en a dit plus tout à l'heure sur son profil.
Cet homme était connu dans le service, au service informatique. Il n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Et ce matin, a commis ce parcours meurtrier.
Une enquête est ouverte pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une perquisition est en cours au domicile de l'assaillant dans le Val d'Oise. Sa femme a été placée en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à en savoir plus sur le parcours de cet homme, les circonstances de sa conversion à l'islam il y a quelques mois, sa relation aussi avec ses collègues. Le parquet national antiterroriste suit l'évolution des recherches pour décider s'il se saisit ou non de ce dossier.
Ariane Grissel depuis le siège de la préfecture de police de Paris. Avec Martin Troadec, merci à tous les deux. Emmanuel Macron est resté sur place un peu plus d'une heure et demie avant de partir dans l'Aveyron pour le débat sur les retraites, on va y venir. Le président est venu soutenir les personnels de la préfecture avec Édouard Philippe, avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, on l'a entendu, qui reporte son déplacement en Turquie, et le secrétaire d'État Laurent Nunez. Le préfet de police était là aussi, tout comme la maire de Paris Anne Hidalgo, et 2 procureurs, celui de la République Rémi Heitz et le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. L'Assemblée nationale et le Sénat ont observé des moments de recueillement, les députés debout. Bilan donc de cette agression à la préfecture de police de Paris. 4 morts, plus l'auteur des faits. Un autre policier, on l'a dit, est à l'hôpital Percy en urgence absolue.
Il est 19h presque 5 sur France Inter. Ils sont tous venus dire qu'ils se reconnaissent dans la lettre de Christine Renon.
Cette directrice de 58 ans qui s'est donné la mort dans son école, l'école Méhul de Pantin, il y a 2 semaines, et qui a laissé un courrier de 3 pages dans lequel elle décrit la solitude de sa fonction, son épuisement, les réformes contradictoires sans cesse. Ces obsèques avaient lieu aujourd'hui et plusieurs milliers de personnes ont profité de l'occasion pour venir protester devant les locaux de l'éducation nationale un peu partout en France. Appel à la grève et rassemblement suivi ici à Bobigny par Alexis Morel.
Plusieurs milliers d'enseignants rassemblés devant les services départementaux de l'éducation nationale où se tenait cet après-midi un comité hygiène et sécurité réuni exceptionnellement après le suicide de Christine Renon. Dans la foule, beaucoup de directeurs d'école qui se sont retrouvés dans ce qu'a dénoncé leur collègue de Pantin dans sa lettre d'adieu. L'épuisement face aux multiples tâches quotidiennes. Guillaume est directeur d'école maternelle.
C'était un petit électrochoc parce que d'un seul coup, sur trois pages, il y a la vie que je vis tous les jours au quotidien. En quelques temps, on a vu les surcharges de travail s'élever. Maintenant, j'ai plus personne pour m'aider dans l'école. Je suis vraiment tout seul. Deux jours par semaine, je suis dans la classe et le soir, je suis directeur en plus, quoi. On remplit des tableaux à longueur de temps, on renvoie des choses qui ne sont pas du tout du travail de directeur d'école.
Ce matin, le ministre de l'Éducation s'est dit prêt à discuter du statut des directeurs, mais ce n'est pas le problème pour Annick, enseignante à Aubervilliers.
Monsieur Blanquer, on lui pose un problème de robinetterie, il répond littérature. Il ne comprend rien à notre colère. Il répond à côté de la plaque, parce que au printemps on a dit non au statut, là il y a une personne qui hurle sa souffrance, ah il nous ramène le statut, moi j'ai la rage.
Pour ces manifestants, il faut avant tout plus de décharges d'enseignement pour les directeurs et le retour des aides administratives pour les soulager.
Et la pétition lancée par l'intersyndicale enseignante pour une toute autre qualité de vie au travail a déjà recueilli plus de 85 000 signatures. À Rouen, l'origine de l'incendie de l'usine Lubrizol n'est toujours pas connue une semaine après le sinistre. Et les questions persistent sur d'éventuelles pollutions dans toute l'agglomération et même au-delà. Question que se posent notamment une vingtaine de jeunes mamans qui allaitent ou de femmes enceintes. À cause des dépôts de dioxines dont on parlait ici hier soir, elles vont porter plainte. Thibault Lefebvre a rencontré l'une d'entre elles.
Flore est enceinte de 7 mois, une première grossesse pour cette future maman de 21 ans. Le lendemain de l'incendie, elle est allée travailler dans une boucherie du centre-ville de Rouen. Elle souffre depuis de violents maux de tête.
Des grosses migraines au point de ne plus pouvoir regarder la lumière. J'en ai jamais eu presque de migraines, donc c'est ça qui m'a paru quand même alarmant. Au niveau du bébé, c'est plus les mouvements qui sont moins forts. Pour les femmes enceintes, ils n'ont rien fait, ils ont juste confiné les écoles. J'en veux forcément au préfet qui nous dit que c'est pas nocif pour la santé. Je compte porter plainte et mon copain également, oui.
Une plainte contre X pour mise en danger d'autrui. Depuis jeudi dernier, l'avocate rouennaise Salia Blalouze en a déjà rédigé une dizaine pour des femmes enceintes et allaitantes. Elle compte les déposer en début de semaine prochaine.
Est-ce que, alors que le lait maternel, c'est un fluide nourricier, est-ce qu'il ne va pas empoisonner mon enfant? Qu'est-ce que ces molécules toxiques peuvent avoir comme impact sur des organes immatures, alors que l'on sait par ailleurs qu'elles ont un impact sur des organes matures? Je pense qu'il y a vraiment des interrogations auxquelles il convient de répondre et c'est l'objectif en réalité de ces plaintes, c'est de faire la lumière sur tout ça.
Salia Blalouze a elle-même, par mesure de précaution, arrêté d'allaiter son enfant d'un peu moins de 2 ans. Elle compte porter plainte et elle a aussi adressé une mise en demeure à l'Agence régionale de santé pour exiger des analyses sur le sang et le lait maternel des femmes volontaires.
Thibault Lefebvre à Rouen, le préfet de la région Normandie, prévient que les opérations de pompage des produits chimiques sur le site vont encore durer plusieurs semaines.
Le rendez-vous a été reporté à cause de la mort de Jacques Chirac.
Le premier grand débat consacré à la réforme des retraites, une salle des fêtes du centre de Rodez dans l'Aveyron. Dehors, un rassemblement à l'appel de partis de gauche et de plusieurs syndicats encadrés par les forces de l'ordre. Dedans, 500 lecteurs des quotidiens du groupe La Dépêche et au milieu, qui va répondre aux questions, debout, Emmanuel Macron pour un échange prévu pour durer 3 heures, peut-être le double. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
Échange qui commencera plus tard que prévu.
Ah oui, tout est en place. Les 500 citoyens sélectionnés sont dans la salle, mais il n'en manque qu'un, Emmanuel Macron, attendu au centre de cette arène. Le président sera en première ligne pour porter et incarner cette réforme phare mais périlleuse du quinquennat. Amandine, 21 ans, alternante vivante à Rodez, espère avoir le micro car elle est inquiète.
Si j'avais l'occasion de lui poser une question, je lui demanderais pour moi mon avenir du coup. Qu'est-ce qu'il envisage pour moi? Je suis alternante, je ne sais pas du coup ce qui va se passer. Et est-ce que je vais moi aussi avoir droit à ma retraite peut-être un jour? Je ne sais pas du tout.
Ça vous inquiète justement cette réforme, tout ce qui se dit en ce moment?
Oui, parce que du coup en fait on ne sait pas du tout comment ça va se passer et on espère évidemment un jour travailler pour évidemment gagner sa retraite.
Lui en revanche ne sera pas concerné par la réforme. Michel, ancien vétérinaire de campagne, aujourd'hui retraité, est tout de même très remonté.
Pourquoi il a mis tant aux personnes âgées? On a travaillé longtemps, et depuis qu'il est élu, il nous pénalise. 65 ans, quand vous êtes dans l'Aveyron à moins de 10 degrés, dans des stabulations à faire des césariennes avec des votes 80 kilos, on n'y tient pas. Donc je l'ai pris à 62 ans et j'ai été pénalisé. Il me semble que j'ai eu 25% de moins dans ma retraite, enfin au niveau rémunération, si vous voulez. Je voudrais qu'il tienne compte de ça.
Alors l'échange est prévu, vous le disiez, pour durer au moins 3 heures. Mais souvenez-vous des grands débats version gilet jaune avec Emmanuel Macron. Eh bien, ça peut durer indéfiniment.
Beaucoup plus, effectivement. Merci Cyril Graziani. Et bonne soirée en direct de Rodez avec Marc Garvenès. La réforme, on le rappelle, prévoit de fusionner les 42 régimes de retraite d'aujourd'hui en un système unique par points à l'horizon 2025.
Sylvie Goulard doit encore convaincre.
La française proposée par l'Elysée à la Commission européenne, cuisinée hier par les eurodéputés sur ses casseroles, on en a parlé ici, mais qui n'a pas encore convaincu. Bonsoir Marie-Pierre Vérôme.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes rentrée de Bruxelles, Marie-Pierre. L'ancienne ministre doit passer l'écrit et peut-être même repasser l'oral.
Eh oui, ni rejetée, ni adoubée, mais admise au rattrapage. Seule Renew, la famille politique de Sylvie Goulard, a voté en sa faveur. Tous les autres députés sont restés sur leur faim, comme l'explique Andreas Schwab, coordinateur de la commission marché intérieur.
Il reste sur le contenu, mais aussi sur les questions éthiques, encore des points ouverts. Les commissions en charge ont donc décidé de demander plus d'informations. Cette procédure commence avec des questions écrites et si les commissions ne sont pas satisfaites, il y aura une deuxième audition.
Peut-être un nouvel oral donc le 14 ou le 15 octobre, 1h30 de plus sur le grill. Sylvie Goulard devrait être fixée assez rapidement. Elle doit avoir envoyé ses réponses pour mardi prochain au plus tard et convaincre les 2/3 des députés des 2 commissions dont elle relève, marché intérieur et industrie, soit 78. Vu l'ambiance, il est peu probable que ses réponses écrites suffisent. Les eurodéputés ne devraient donc pas résister au plaisir de la seconde audition. C'est en tout cas ce qui se dit à Bruxelles. Mais nul ne doute non plus qu'au final, la Française obtiendra le feu vert. Ses compétences sont reconnues. Seulement, peut-être devra-t-elle laisser quelques plumes, voire son portefeuille s'alléger. Le conservateur Christian Ehler a préparé le terrain hier.
Madame Goulard, vous allez avoir 3 DG clés sous votre contrôle. Sans être ironique, il faudrait un Hercule féminin pour arriver à gérer tout cela.
Sylvie Goulard couvre en effet le marché intérieur, l'industrie, l'espace, le numérique, la défense, la politique énergétique. Ses rivaux politiques ne seraient pas fâchés de récupérer certaines compétences dans l'escarcelle de leur propre commissaire.
On suivra ça avec vous. Merci Marie-Pierre Vérot. Bruxelles encore avec ce revers pour Facebook. La justice européenne estime qu'un hébergeur de contenu comme le géant américain peut être obligé de supprimer des commentaires haineux ou diffamatoires, et cela au niveau mondial. C'est une députée écologiste autrichienne qui a saisi la Cour de justice de l'Union. Un internaute qui critiquait ses positions avait partagé un article avec une photo d'elle et des commentaires injurieux. Le ciel reste noir au-dessus de l'économie mondiale. Voilà ce que disent les prévisions de l'INSEE pour le 4e trimestre. Avec la guerre commerciale, le ralentissement de la Chine, la perspective du Brexit. Mais la croissance française va continuer de résister. L'INSEE prévoit plus 0,3%, plus 1,3% sur l'année. Toujours portée, Delphine Simon, par la consommation et notamment les mesures gilets jaunes.
Si la croissance française résiste, c'est bien grâce à la demande. L'investissement privé profite de taux d'intérêt qui restent bas. Les travaux publics sont dopés avant les prochaines élections municipales et le chômage baisse. L'INSEE prévoit 250 000 créations d'emplois cette année. Ajouté aux mesures d'urgence de fin d'année et à la deuxième baisse de la taxe d'habitation cet automne, le pouvoir d'achat augmente 2 fois plus vite que l'an passé. Un coup de fouet qui ne joue pas sur la consommation des ménages, ils préfèrent encore souvent épargner. Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE.
Ce qu'on observe en général, avec un choc de pouvoir d'achat positif, c'est de manière simultanée un choc sur le taux d'épargne dans un premier temps, puis l'accélération de la consommation ne vient que quelques trimestres après. Donc à l'horizon de la fin d'année, l'INSEE prévoit pas d'accélération de la consommation, l'INSEE prévoit une croissance régulière de la consommation. On verra ce qu'il en sera par la suite.
Car en cette fin d'année, l'inconnu majeur, ça reste le Brexit. L'INSEE a bâti sa prévision sur le scénario d'un Brexit ordonné. Difficile à ce stade de quantifier les effets à court terme d'un Brexit sans accord.
Une bonne nouvelle pour les salariés de General Electric à Belfort. La direction se dit prête à réduire de 150 le nombre de suppressions de postes sur le site, à condition de s'entendre sur la réduction des coûts et sur l'amélioration de la performance. Elle propose jusqu'ici 780 92 départ. Il avait lancé une fausse alerte à la bombe pour ne pas rater son train en mars dernier en gare de Rennes. Le trafic avait été paralysé plusieurs heures. Un ancien maire d'Ille-et-Vilaine est condamné à 4 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Il était jugé aujourd'hui, Céline Guettaz, en procédure de plaider coupable.
À l'énoncé de la peine, l'ancien élu et ancien cheminot semble soulagé. Soulagé surtout parce qu'il appréhendait cette audience. Depuis son placement en garde à vue, le quadragénaire reconnaît sa responsabilité. Il évoque un burn-out. Un burn-out reconnu médicalement aujourd'hui, précise son avocat. Maître Maxime Tessier indique que son client ne cherche pas d'autres excuses. Il a consacré sa vie au service public. Et aujourd'hui, il exprime ses regrets pour les passagers, les collègues de travail cheminots et les forces de l'ordre qui ont dû intervenir ce jour-là. Le tribunal le dispense d'inscription de sa condamnation à son casier judiciaire, ce qui lui permettra de nouveau de travailler dans un service public.
Les manifestations hostiles au gouvernement tournent au bain de sang en Irak. Troisième jour de colère et déjà 28 morts dans plusieurs villes du pays, dont un enfant, 2 policiers, tous tués par balles. 6 manifestants encore aujourd'hui à Nasiriyah, au sud de Bagdad. Le couvre-feu est en vigueur depuis la nuit dernière dans la capitale et les accès à Internet en grande partie coupés. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Les manifestants dénoncent le chômage, la corruption et la dégradation des services publics.
Oui, le signe d'un ras-le-bol général en Irak, surtout parmi la jeunesse qui crie son désespoir. Cette colère est d'autant plus paradoxale que la situation générale du pays s'est améliorée. D'abord sur le plan sécuritaire, après la victoire de Daesh annoncée officiellement en décembre 2017. Et puis surtout sur le plan économique, avec l'augmentation des cours du pétrole à plus de 65 dollars le baril en moyenne l'année dernière. Les caisses de l'État irakien sont donc bien remplies. Le problème, c'est la gouvernance du pays avec une corruption endémique qui a atteint un niveau industriel, me confiait un avocat d'affaires qui accompagne des sociétés françaises sur le marché irakien. L'argent public est littéralement siphonné par les partis politiques, les chefs de milices, les chefs de tribus et la population irakienne. Elle ne voit aucune amélioration de son sort alors que le pays est riche. Pour le gouvernement d'Adel Abdelmahdi, entré en fonction il y a tout juste un an, c'est le premier grand test et déjà il joue sa survie car la crise sociale pourrait se transformer en crise politique.
Christian Chesneau, le sport et d'abord le foot. L'équipe de France sans Paul Pogba mais avec Steve Mandanda. Didier Deschamps rappelle le gardien de l'OM, mais il doit se passer de l'attaquant de Manchester United, blessé pour les prochains matchs de qualification des Bleus pour l'Euro 2020, en Islande et contre la Turquie. Le sélectionneur retrouve Kylian Mbappé, en revanche, remis de sa blessure à la cuisse, et il convoque pour la deuxième fois le Lillois Jonathan Ikoné. Direction Doha, au Qatar, pour finir où se tiennent les mondiaux d'athlétisme et où l'on suivait en particulier les épreuves du décathlon avec le français Kevin Mayer, champion du monde en titre. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Sébastien.
Hélas, trois fois hélas Vincent, on voyait qu'il souffrait depuis hier. Il a finalement abandonné il y a une demi-heure.
Oui, cette image, hein, Kevin Mayer en larmes au pied d'une barre à 4,60 m qu'il n'a même pas pu tenter de franchir. Prendre une course d'élan dans cette épreuve de la perche lui était impossible. Sa blessure à la cuisse était trop forte et elle a eu raison des ambitions du recordman du monde. C'est vrai qu'hier, il s'était déjà légèrement blessé, mais c'est tout à l'heure dans la première épreuve de cette deuxième journée du décathlon, le 110 mètres haies, que Kevin Mayer s'est véritablement blessé. Passé la ligne d'arrivée, il a grimacé, il s'est mis à boiter, de quoi s'inquiéter sérieusement pour la suite. Il a réussi tout de même à lancer le disque à une distance correcte, mais on savait que le vrai test était le saut à la perche, une discipline où d'ordinaire il excelle. On sait comment cela s'est terminé. C'est là deuxième année consécutive dans qu'un grand rendez-vous tourne au cauchemar pour Kevin Mayer. L'an dernier au championnat d'Europe, il avait perdu tous ses espoirs de titre en manquant ses 3 essais à la longueur et il ne décrochera pas ici à Doha un deuxième titre mondial consécutif.
Vincent Pellegrini, merci en direct de Doha. Et pour encore plus de sport, le podcast Poursuite de cette semaine est en ligne depuis un peu plus d'une heure. Poursuite volume 4 consacré au foot féminin.
Eh bien c'est noté, c'est formidable. Merci beaucoup Sébastien Paour. On se retrouve évidemment demain. Nous on reste ensemble pour Le Téléphone Sonne. Merci de passer la soirée avec nous.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et Elodie Calac, ça se dégrade par l'ouest ce soir.
Et oui, ce soir et cette nuit, les petites pluies progressent vers le nord de la Seine, vers la région parisienne, le centre, l'Aquitaine. Demain, on les retrouvera du sud-ouest, vers Rhône-Alpes et le nord-est. Des pluies plus marquées d'ailleurs de l'Alsace jusqu'au nord des Alpes. L'après-midi, des averses prendront le relais de la pluie sur le nord-est. Et puis ailleurs, les nuages resteront nombreux, mais ce sera sec. Sur la Normandie, sur le nord, la région parisienne, un ciel bien nuageux avec quelques averses. Des averses qui vont devenir plus fréquentes l'après-midi au nord de la Seine. On aura du vent près de la Manche jusqu'à 80. 90 km à l'heure. Sur le sud-est, là, on profitera du soleil. Et puis, entre la Bretagne, le centre Val-de-Loire et Poitou-Charentes, on retrouvera des éclaircies. Même chose l'après-midi sur le Limousin et sur le nord de l'Aquitaine.
En revanche, il fera moins frais.
Oui, 4 à 9 degrés dans l'est le matin, 9 à 16 ailleurs, avec 10 à Paris. L'après-midi, 15 degrés à Metz et à Besançon, 17 à Amiens, Paris, Brest et Limoges, 19 à Nantes ou à Lyon, 22 degrés pour Nice et 25 pour Montpellier.
Et Élodie Calac de Météo France, merci.